a d'abord été traduit par Moïse Rosenbaumas lui-même, puis a été repris par sa fille Isabelle au fil d'un dialogue qui a parfois étoffé le récit initial. Né en 1922 dans une bourgade de Lituanie, Moïse Rosenbaumas raconte la vie de cette société pauvre et laborieuse à la veille de sa destruction. L'auteur évoque les métiers qui avaient à leur cours, les plats de misère et les jours de fête, le climat rude et les jeux d'enfants, glisser sur le lac glacé avec un seul patin et voler des pommes dans les vergers les plus difficiles d'accès. Tandis que le père de Moïse abandonne sa famille après une faillite causée par la crise mondiale, le petit garçon commence à travailler à l'âge de 10 ans, puis devient tailleur. La guerre éclate et l'adolescent s'enfuit après avoir tenté de convaincre sa mère et ses frères de le suivre. Ils seront tous assassinés avec les autres juifs lituaniens entre juillet et décembre 1941. Au cours de son périple, Moïse est interné avec d'autres Russes dans un kolkhoz d'Ouzbékistan où il subit le travail forcé et la faim. Il parvient à s'extraire de cet enfer et s'engage dans l'armée rouge où il sera éclaireur. Décoré comme soldat, il devient cadre du régime soviétique jusqu'à ce que sa conscience et surtout sa femme l'incitent à sortir de cet enlisement dans le système. En 1957, il rejoint ainsi son père en France qu'il n'avait pas vu depuis près de 30 ans. Moïse s'est éteint le 1er novembre dernier. Ihr habt sich verliebt in ein Jüngel, ein Schein, um nach Ken zu ihm nicht kommen.
Dans la cour se trouvait une grange où l'on stockait des céréales, du blé et de l'orge, un silo de taille respectable. Du haut du grenier, un large conduit déversait directement dans des sacs les graines, ainsi prêtes à être vendues. Les propriétaires étaient deux associés juifs. Un côté de la grange nous revenait, et nous en avions l'usage car parmi les biens que nous avions sauvés de notre débâcle figurait notre vache. La cour était de très grande dimension. À son extrémité commençait un jardin de primeurs et de légumes appartenant à un autre propriétaire lituanien qui les cultivait pour les vendre au marché. Son potager ne dépassait pas 25 mètres de largeur, mais il s'étirait sur une profondeur de 300 mètres. La ville et la campagne se confondaient partout. Notre maison touchait le potager, et le potager jouxtait le verger du Pop que je vous ai déjà longuement présenté. Il suffisait d'enjamber le potager, et j'étais chez le Pop. Et comme vous le savez, je ne m'y rendais pas pour m'y convertir. Pour le grand amateur de pommes et de mauvais coups que j'étais, ce verger était depuis longtemps pour moi une sorte de deuxième maison. En traversant le marché et en descendant un peu, je me retrouvais en 5 minutes au lac où j'aimais me baigner. De notre appartement, il nous suffisait de traverser la rue et de monter quelques marches pour accéder au parc. Et de là-haut, nous avions une magnifique panorama sur le lac. À ne se fier qu'aux apparences, tout cela peut paraître assez charmant. Et lorsqu'une famille dispose de surcroît d'une vache et d'une servante, me direz-vous, de quoi se plaint-on ? Cette beauté et ce charme de notre environnement naturel étaient certes bien réels, mais ils n'étaient que le reflet trompeur qui scintille à la surface des choses. Nous étions en vérité 4 orphelins de facto, car notre père nous avait quittés. Je n'ai pas vraiment le droit de dire cela alors que mon père était vivant, mais c'était ainsi que je le ressentais. De plus, ma mère avait le cœur malade. Et puis il fallut bien retrouver une solution pour loger mon grand-père qui était veuf. Ma grand-mère, qui avait eu un accident en descendant dans sa cave, n'avait plus pu se lever de son lit et était morte quelque temps après à Gorj. C'était la ville natale de ma mère, située à 50 km de Tels et à 10 km de la mer Baltique. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que de prendre mon grand-père avec nous. Si on fait à présent le compte, il y avait 7 bouches à nourrir dans la maison. Ma mère, mon grand-père, les 4 enfants, la servante et sans oublier la vache. La moindre difficulté quotidienne se transformait en problème insurmontable. C'est inouï ce qu'un estomac exige, Lorsque vous mangez à votre faim et que vous vivez à peu près normalement, ne serait-ce que de façon modeste, vous n'êtes pas en mesure de vous rendre compte à quel point les plats les plus simples peuvent être succulents. Mais quand vous connaissez la faim, vous ne vous posez même plus la question de ce que vous allez ingérer. Vous vous demandez plutôt avec quoi vous allez bien pouvoir remplir votre ventre vide. Et la situation se complique davantage encore quand vos rentrées d'argent sont nulles. Mon grand-père avait cessé de travailler car il souffrait d'un cancer du nez. Il avait besoin de soins permanents et devait subir régulièrement des opérations. Cela représentait beaucoup de travail et d'argent, d'autant plus qu'il devait se rendre assez souvent à Berlin, où existait une chirurgie plastique plus avancée. Dans ces conditions, notre sort s'aggravait de jour en jour, et les réserves que nous possédions se raréfièrent, s'épuisèrent, jusqu'à s'évaporer presque totalement. La maison était devenue méconnaissable. Le tissu que mon père avait caché chez des paysans et que nous étions parvenus à récupérer avait pris le chemin de notre estomac et y avait rapidement disparu. La seule ressource qui nous restait était la vache. Mais pour qu'elle nous donne du lait, fallait-il encore la nourrir ? Le lait est un aliment délicieux et précieux dont on produit les plus excellentes choses, de la crème fraîche ou du beurre. Seulement, nous manquions de pain à beurrer. Ma mère décida de prendre des mesures à court et puis à plus long terme. La première d'entre elles fut de vendre la vache afin de gérer plus efficacement la crise économique à laquelle nous faisions face. Elle resserra de nouveau la ceinture d'un cran et résolut dans la foulée de congédier Anna, notre servante. Mais celle-ci faisait partie de notre famille comme les vieux meubles, et contrairement à eux, elle se défendit. Elle supplia ma mère en yiddish, lui rappela qu'elle nous avait élevés, lavés, habillés, qu'elle savait préparer la cuisine cachère, cuire le pain et la challah du Shabbat. Elle ne demandait rien d'autre qu'un morceau de pain et un lit pour dormir. Ma mère finit par se dire qu'affronter la disette à 6 ou 7 ne faisait pas une grande différence. Dans un cas comme dans l'autre, nous serions affamés. Elle céda devant ses supplications, et Anna resta chez nous encore 10 ans, jusqu'à la guerre. La situation ne cessait de se dégrader jusqu'à devenir vraiment intolérable. Bien malgré nous, nous sommes passés à un régime strictement végétarien. Notre nourriture était devenue insipide. Nous consommions ce que l'on appelle en russe « pochtlost » ou « pochno », une soupe confectionnée à base de légumes les moins chers du marché. Les aliments n'avaient plus aucun goût et étaient cuisinés sans matière grasse. La recette du pochno est assez simple. Prenez une casserole et remplissez-la presque entièrement d'eau. Ajoutez quelques nouilles, 1 ou 2 pommes de terre, 1 demi-verre d'orge, un peu de sel et de poivre, et lorsque l'ébullition commence, vous pouvez passer à table. Pendant que vous mangez, pour ne pas ressentir la faim, pensez à des plats de viande ou à d'autres mets délicieux. Ces mets délicieux qui avaient déserté notre maison persistaient dans nos rêves. Même le poisson qui était très bon marché à Tels était devenu inaccessible et avait disparu de notre table. Mon père n'avait rien à nous envoyer pour soulager nos maux. Un frère de ma mère qui habitait en Afrique du Sud nous faisait parvenir de temps à autre quelques dollars, mais c'était rare et c'était peu. Ma mère avait aussi 2 sœurs en Amérique, qui envoyaient des paquets contenant des vêtements usés. Malheureusement, cela ne se mangeait pas. Les bouchers de notre ville, qui avaient bien connu ma mère au bon temps, avec toute sa délicatesse et sa retenue, lui proposèrent de prendre chez eux de la viande à crédit, mais elle refusa d'en profiter, se rendant bien compte qu'elle ne pourrait pas acquitter ses dettes. Elle commença alors à réfléchir, passant chacun d'entre nous en revue. Qui, parmi nous, pourrait aller travailler pour ramener quelques sous à la maison ? Mon frère aîné, Yosef, qui avait 3 ans de plus que moi, était déjà entré à l'école normale d'instituteur et était un très bon élève. Mon deuxième frère, Leibé, avait à peu près 9 ans, et le plus jeune, Élie, était encore tout petit. Mon grand-père était trop âgé et ma mère malade.
Dort, wo großen Sehnen nasser, steht a Kränze vertracht, gehen Mädler ziehen Wasser, wie die Ämmer alle Nacht. Gehen Mädler ziehen Wasser, wie die Ämmer alle Nacht. und der Sonne wie weiße Bären wachsen täglich in großen Sod. Und von weitem Schein von Sternen tanzen Jatten in Rot. Und von weitem Schein von Sternen tanzen Jatten in Rot. Von die Steppes Windler blosen und a Feierruder brennt, gehen Mädler auf die Großen mit die Äler in die Hand. Gehen Mädler auf die Großen mit die Äler in die Hand. Wertle wohne blass und blasser, geht's beugt men in der Nacht. Dort wo großen Sehnen Wasser steht der Grenze Verdacht. Dort wo großen Sehnen Wasser steht der Grenze Verdacht. Dort wo großen Sehnen Wasser steht der Grenze Verdacht.
Ich gewinne als Speichler, wo mein Hut gehalten tue. Eben mit der Halden bei dem, wo sie pflegen halten die Tue. Er ist geschossen auf den Deal. Und von oben fliegen sie durch, heraufsitten, durch Hazarer, gleich in die Säge zum Verkäufen. Die Balabatim, seinen Gewinn zwei Iden, Sutfim. Die zweite Halbe hat gehört zu uns, weil wir oben noch gehabt die Kuh. Welche wir haben gebracht mit sich. Auch der Dienst ist gekommen mit uns. Der Helf ist gewesen, als ich reich und beim Ende agorten, was hat nicht gehört zum selben Balabos, nur zwei Litwiner. Die Breite von Gorten ist gewesen bei 25 Meter, aber die Länge bei 300 Meter. Und da fliegt da versehen ein Grinzeig zu verkaufen. Und von unserer Stube frage ich nur, darf man Arribas Preis in dem Garten, in der Breit, und ich bin sein gewöhnt beim Pop in Schott. Ich bin dort gewöhnt wie bei sich in Stube. Und unten, herab, herübergehend ich dem Markt, fliegt mein Kennen, herabgehend beim Osere, und wir fliegen sich gegen den Boden. Ist doch alt, also schön und gut, aber das ist nur überflächlich. Wir sind geblieben für Jesuim de facto. Man tut es nicht sagen, als man hat erlebendigen Taten. Aber leider ist das gewinn als sie. Und zudem ist meine Mutter gewinn krank, wie der Herz. Wir haben gemusst reinnehmen bei uns mein Seiden, weil die Bobe Zivie ist neben herangefallen bei sie im Keller, in Gorst, und zu brochen Fuß. Und ein bisschen später ist sie gestorben. Also darum, als wir haben gemusst neben dem Seiden, bei uns. Dann haben wir sehen, gewinnen eine volle Stube mit Essers. Als man zählt, das Gute ist, ist das sie. Die Mutter, die vier Kinder, der Seide und die Dienst. Als man zählt, das Gute über, macht das sie sieben Meiler zu messen. Weil das ist gewinn unser größter Problem. Es stellt sich gar nicht vor, was der Morgen darf haben. Als man lebt gut, gibt man sich gar nicht ob kein Chesben. Und alle gute Achilles, was man isst. Die einzige Sache, was man tracht, sie man hat gut gegessen. Und sie man hat gehabt eine neue. Aber als man ist hungrig, tracht man nur mit was, wird man können anstoppen den Morgen. Der Seide hat sie mir nicht gearbeitet, weil hat gehabt Arak in Nuss. Und gedacht vielmal ihm operieren. Und übersetzt an Nuss. Das ist eine große Arbeit. Man hat gemusst, jeder Mal vorne in Berlin. Nun, wo soll ich euch sagen? Die Reserven sind geworden Zitrer. Also haben sich im Ganzen ausgewebt. Die Stoffen, was mein Vater hat herausgeführt bei den Pörim, hat man nur ein Teil gekrochen zurück und das sehr schnell aufgegessen. Man hat gemusst verkaufen die Kuh und das sehr aufgegessen. Man hat gemusst verziehen den Passig. Meine Mutter hat beschlossen, wegzulassen den Dienst. Hat den Dienst ihr gebeten. Ich habe alle Kinder reich gehabt damit. Und ich kann kochen, kostere essen und backen, Brot und Challe. Ich will bei euch bleiben, nur fahren, essen und schlafen. Nur als mein Hunger sechs Menschen, ist ein Siebeter nicht sehr wichtig, hat meine Mutter eingestimmt. Mit dem Wort, die Lage ist geworden gar, gar schlecht. Meint nicht, dass das ist ein Fehler von Schrift. Man darf Tage lernen zweimal gar, gar schlecht. Man hat genommen Essen Posten oder Puste. Ah, ihr wisst nicht, wo das ist. Will ich euch geben dem Rezept, wie das zum Kochen. Ihr nehmt einen großen Topf und gießt ungemacht voll mit Wasser und zieht darin ein bisschen Lachsen oder etliche Kartoffeln. Gräben und als das Wasser kocht auf, könnt ihr das gleich essen. Und nicht zu bleiben hungrig, müsst ihr beim Essen trachten wegen Fleisch und wegen anderer Geschmack essen. Aber die aller seltenen Geschmack essen, sind geworden seltene Gäste bei uns in Stub. Der Vater hat gar nicht gehabt, was zum Schicken. Die Mutters Bruder von Dorm Afrika hat ja reingeschickt ein paar Pfund. Aber sehr selten. Auch die zwei Schwestern von Amerika haben reingeschickt etliche Päckchen mit Sachen. Aber das lässt sich nicht keinen. Die Katzen, welche haben gekannt meine Mutter von den guten Zeiten mit der Eitelkeit und Stillkeit, pflegen ihr Anboten, sie sollen nehmen Fleisch. Auf Burg, aber selten, wenn sie hat von dem Anbot erst genutzt die Gelegenheit. Hat meine Mutter gesagt, als wer nicht ist, muss gehen arbeiten. Mein größerer Bruder Josef hat sehr gut gelernt. Der Kleinere von mir Leben ist gewesen zu klein. Und gar der letzte Gorki.
Komm schon zu mir, geh, ich warte auf dich schon lang. Komm, ich geh herüber, das soll nicht hören, dein Gang. Führ ich dich ins Stiebele von meinem Namen, du allein. Großen Kalle will mir sein und zu der Gruppe gehen. Verbrachte Zeit, das keiner soll nicht sein. Spielst du mir dem neuen Scherus, ist er rausgekommen. Ich hab sich verliebt in ein Jünger, der Scheine. Und ich kann zu ihm nicht kommen.